Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDIWA sur le 107.5 FM.
Bonjour auditeurs, auditrices, bienvenue à l'interview du jour sur Radio DIWA 107.5 FM. Interview que l'on peut écouter en direct ou retrouver en podcast après la diffusion sur le site de la radio rdwa.fr, partout dans le monde où il y a internet. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite d'une première interview qui a été diffusée il y a peu de temps à propos de la chimico-sensibilité. Et nous nous retrouvons avec nos mêmes invités, Sylvie Renaud, auteur du livre « Si ça se peut ». Sylvie, qui avait déjà été interviewée auparavant sur cette antenne à propos de son livre à l'automne dernier. Et interview qu'on retrouve bien sûr en podcast sur rdwa.fr. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Et on retrouve aussi Delphin qui a été diagnostiqué comme chimico-sensible par un médecin et qui nous en a déjà bien parlé. Je précise que Sylvie aussi est chimico-sensible. Bonjour Delphin.
Bonjour.
Alors on vous invite bien sûr, si vous n'avez pas écouté, si vous n'avez pas eu l'occasion de tomber sur cette première interview, de la télécharger sur cette page internet. Et on a parlé, donc on rappelle brièvement qu'on a décrit l'hypersensibilité chimique multiple, ou MCS, qui est l'acronyme américain de ce qu'on appellera ici chimico-sensibilité. On a parlé des symptômes, des différents symptômes qui vous parcouraient, Delphin et Sylvie, qui étaient possibles. De lecture, vous nous avez aussi proposé des lectures par rapport à cette question. On a aussi évoqué le côté social, le côté société de cette affection, à la fois dans la production des toxiques et à la fois dans les résolutions possibles. Comment dans votre socialisation, votre société proche est reconnue ces problèmes, ces questions de chimico-sensibilité? Et du coup, ça permet aussi de revenir sur vous. Comment est-ce que vous vivez la perception qu'en ont les autres, sachant que ça va évoluer et que cette émission va être diffusée aussi, et que je suppose que le travail que vous faites au quotidien participe à faire changer les choses. Mais là, comme ça, sachant que rien n'est figé, quels sont les exemples de choses auxquelles vous êtes confrontés?
Déjà, je vais poser les bases du comportement médical. La médecine nie notre difficulté de santé et elle s'appuie sur ce déni pour justifier de ne faire aucune recherche pour essayer de trouver un moyen de nous soigner. Et d'ailleurs, moi j'affirme qu'ils ne pourront jamais trouver, puisque les seules méthodes de la médecine, c'est d'employer des produits chimiques, que sont les médicaments. Et comme nous ne supportons plus les produits chimiques, la boucle est bouclée, la solution, elle est forcément ailleurs. Sauf que le grand problème, c'est qu'actuellement, le grand monsieur je sais tout, c'est le médecin. Et donc, si le médecin affirme que ma maladie n'existe pas, eh bien, toute la société va s'aligner sur le médecin. Donc, toute la société va se croire autorisée à nier ma maladie. Et c'est là toute la problématique. Parce que si j'avais un médecin qui me faisait un certificat comme quoi je suis chimico-sensible, etc., ben, j'aurais beaucoup plus de respect de la part des autres, juste parce que c'est écrit par un médecin. Vous voyez ? Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle, j'ai quand même trouvé un médecin qui m'a fait un petit certificat et qui m'aide beaucoup. Mmh. Au passage, s'il m'écoute, je le remercie. Mais Il n'empêche que oui, ça pose des problèmes sur tous les plans, sur le plan professionnel, ça nous empêche de travailler, ou alors si on travaille dans des conditions épouvantables, on souffre tout simplement, on a mal dans notre corps, on rentre chez soi épuisé, déprimé que du fait que les gens veuillent pas nous croire. Et puis aussi sur le plan affectif, sentimental, c'est difficile si on rencontre un homme ou une femme, enfin un partenaire qui ne nous croit pas. Alors là, ça tient pas la route, quoi. De toute façon, ça ne tient pas la route parce qu'on peut tout simplement pas vivre avec, parce que si cette personne ne fait pas attention, notre état de santé s'aggrave en chute libre, quoi. C'est très rapide. On tombe très malade et du coup, on peut plus nourrir cette relation. Voilà, ça tourne en boucle. Alors il y a quelques exceptions. Il y a quelques de temps en temps quelqu'un qui nous croit. Il y en a de plus en plus parce que ça commence à être un peu dans l'air. On en parle un petit peu de ça dans les médias. Mais il y a 20 ans, là, je peux vous garantir que c'était vraiment, vraiment. Les gens étaient très fermés à ça.
Tu sens une évolution.
Je sens une évolution, oui. Mais l'évolution, elle est seulement dans la. Pourrait dire dans l'écoute et la compassion. Mais dans l'acte, c'est très difficile. C'est très difficile. Les gens, ils aimeraient pouvoir nous aider, mais ils savent pas comment. En fait, c'est incroyable tous les produits qu'il faudrait retirer. On se rend pas compte de tous les produits qu'on porte sur nous, tous les échantillonnages. Si je parle de haut en bas, vous avez le shampoing, après tous les cosmétiques, les crèmes pour les lèvres pour pas avoir des gerçures, tous les gels douche, les produits lessives, les crèmes hydratantes pour les mains, enfin les gens ils ont qu'à ouvrir leur sac à main, ils ont plein de produits chimiques dedans, ils ont qu'à ouvrir le placard qui est sous leur évier, c'est plein de produits chimiques. Et puis après il y a tout, donc vous voyez, quand une personne veut nous rendre visite, tout ce qu'elle est obligée de faire, faudrait qu'elle vienne toute nue presque. Il faudrait qu'elle enlève tous ses vêtements. Mais moi, je peux vous raconter, mon dernier petit ami, c'était il y a un an. Ben, il a fallu on est allé au Secours Populaire, on a acheté toute une garde-robe pour lui, qui était chez moi. Et dès qu'il arrivait chez moi, qu'il venait passer un week-end de temps en temps, dès qu'il arrivait chez moi, il m'embrassait même pas. Il me disait bonjour de loin. Passait à la douche et après il prenait des vêtements qui étaient chez moi, qu'on avait achetés pour lui. Voilà, enfin c'est compliqué, mais après il y a même dans la nourriture, si la personne mange une alimentation qui est trop toxique, on ne peut pas l'embrasser sur la bouche parce qu'on mange, on mélange notre salive avec la sienne, ou s'il prend des médicaments qui peuvent être toxiques pour nous, on ne peut pas l'embrasser. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué, extrêmement, extrêmement compliqué. Donc voilà, je ne sais pas si Delphine, si tu as des exemples à toi à donner. Moi j'en ai plein, je pourrais en parler pendant des heures.
Ouais. Par rapport à la reconnaissance, c'est vrai que c'est souvent difficile d'expliquer en fait le problème. Voilà, donc quand j'étais chez des amis récemment, j'avais cité ce problème de lessive. Très souvent, j'ai ce problème avec les lessives. Ou avec les produits vaisselle. Bon,
mais alors comment les gens le prennent quand tu
bah
dis
là,
ça
m'arrange, je dirais ça m'arrange plutôt parce que je fais pas la vaisselle. Mm-hmm. Non mais je rigole, mais c'est vrai que bon, les gens peuvent comprendre quand même. Des fois, bon, là les amis ont compris. Moi je m'apprêtais à aller acheter le produit vaisselle et il m'a dit non c'est bon. Enfin, souvent en fait mon attitude, bon, déjà c'est de pas forcément accuser les autres de pas comprendre, c'est aussi d'avoir une sorte de compréhension pour les gens quand ils comprennent pas. Une sorte de compassion, une sorte de bon d'acceptation du fait que chacun a sa vision du monde, a ses perceptions. J'impose jamais rien à personne, moi je respecte toujours tout le monde dans ce qu'il dit, dans ce qu'il perçoit, etc. Chacun vit dans sa réalité, je dirais. Chacun perçoit les choses à sa façon. Par contre, moi, je vais poser des actes positifs. Je vais acheter les produits qui me conviennent. Voilà, donc quand je suis chez des amis, ou alors j'amène le produit vaisselle, j'amène mes draps, enfin, je m'arrange. je m'arrange. Bon, sur mon lieu de travail, là, bon, j'ai eu droit à quelques petits arrangements. Par rapport, je disais, aux fruits, bon, voilà, j'ai exposé le problème et j'ai été entendu. C'est-à-dire qu'on a trouvé un arrangement pour que, finalement, j'aille plus à la cantine, que je sois de service dans la cour plutôt qu'à la cantine. Donc ça, je suis assez reconnaissant, finalement, parce que les personnes de cet établissement scolaire ont été assez compréhensifs. Bon, on ne peut pas faire des miracles, on ne peut pas remplacer tous les produits d'un coup, parce qu'il y a l'argument économique, l'argument du prix des produits. Mais bon, des petits arrangements ont été possibles pour les produits pour les toilettes du personnel, par exemple. Donc voilà, moi je sais que les gens peuvent comprendre. Bon, dans ma famille, ce n'est pas forcément évident de faire comprendre quand on passe des vacances que bon... Mais bon, dans ma famille, on n'a pas non plus l'habitude de mettre des parfums, par exemple. Donc, j'ai pas énormément de problèmes. Et dans ma petite famille, avec ma compagne, il y a aussi beaucoup de compréhension. De toute façon, chez nous, on n'utilise que des produits écologiques, des lessives écologiques. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
Mais même dans les lessives écologiques, il y a des fois des parfums, des huiles essentielles. Des fois, c'est encore plus fort que les autres.
Ouais, d'ailleurs, je vais faire attention par rapport à ce que tu disais. Je crois que j'en mettrai deux fois moins la prochaine fois, parce que c'est vrai que même les lessives écologiques ont des parfums, des huiles essentielles. Les huiles essentielles peuvent être... ça peut être dangereux. C'est de plus en plus répandu. Les huiles essentielles, on leur prête des vertus exceptionnelles, mais il faut faire quand même très attention. Hein. C'est très concentré.
Je pense
que voilà, il y a des précautions d'utilisation pour les huiles essentielles.
Mais moi, je voudrais donner un témoignage positif aussi. J'habite dans une HLM depuis 8 ans, et dans les premières années, j'envoyais des lettres recommandées à la direction de l'HLM pour demander qu'on arrête de disperser non seulement des produits chimiques pour l'entretien, mais aussi des parfums dans les escaliers, ce qui n'était pas justifié par la question de l'hygiène. C'est pas pour l'hygiène qu'on met des parfums. Et on me rigolait au nez, on ne faisait rien. Et puis depuis cette année-là, il y a eu un nouveau gardien. Et je lui ai parlé de ma difficulté. Et lui, il m'a entendu. Il en a parlé à sa direction qui a changé. Il y a une nouvelle direction. Et on lui a fait faire un stage d'entretien avec des produits bio. Des produits même pas bio, des produits simples, quoi. Et depuis quelques mois, il fait le ménage uniquement avec du vinaigre blanc. Donc je ne sens rien en fait, et il en met en très petite quantité. Il fait attention à ne jamais mettre de parfum dans l'air, enfin il ne projette pas de parfum. Et voilà, il est très content, et moi aussi. Voilà, je voulais donner ce témoignage parce que c'est tout gain, parce que non seulement moi je suis moins malade, mais en plus de ça c'est beaucoup plus économique, parce que le vinaigre blanc, ça coûte trois fois rien.
Oui, puis,
et moi, j'utilise des cristaux de soude, ça coûte trois fois rien aussi.
Et puis lui, il ne s'intoxique pas
absolument
au cours de
il
son
est,
travail, ce qui
est
aussi un gain inestimable.
Oui.
Donc,
et oui, je peux témoigner
bien,
que
bien lui fasse, et merci beaucoup.
Quelqu'un qui était avant lui, un gardien qui était avant lui, est mort du cancer. Voilà, qui lui utilisait les produits chimiques classiques.
J'ai un autre exemple aussi, hein, c'est donc toujours sur mon lieu de travail. Ben, comme je disais, je pose des actes positifs, c'est-à-dire que là j'ai acheté la lessive qui sert à nettoyer les serviettes et tout le linge de l'école. Et finalement, ils se sont rendus compte que ben, peut-être qu'ils faisaient beaucoup de lessive et qu'une fois par jour c'était beaucoup, et que ben, une fois tous les deux jours ça allait aussi très bien. Donc finalement, la lessive est un petit peu plus chère, bien sûr, mais comme il n'y aura qu'une lessive tous les deux jours, finalement, l'école va peut-être faire des économies grâce à moi.
Mais tu peux aussi leur dire qu'ils peuvent très bien laver leur linge de la même façon que moi, c'est-à-dire avec une cuillère de bicarbonate de soude et un demi-verre de vinaigre blanc. Et ça fait une parfaite lessive, ça coûte
mais
pas cher et ça lave très bien.
C'est des produits effectivement très bon marché et très efficaces. Et je me posais la même question pour les produits qui utilisent pour le sol, hein, pour laver le sol. Mais par contre, je me demande si au niveau des normes, c'est possible, parce que moi, on m'a exigé que j'apporte sorte la fiche technique de la lessive. Alors, est-ce qu'il y a une fiche technique pour les produits simples comme le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc, Sylvie?
Par rapport à ces produits, mon corps il réagit pas, donc ça veut dire que ça l'agresse pas. Et puis le bon sens commun et l'expérience nous dit que ces produits ne sont pas toxiques puisqu'on les utilise depuis plus des siècles, quoi. Enfin depuis qu'on sait les fabriquer. Voilà, donc ils sont pas dangereux. Donc oui, tu voulais dire...
Oui, c'est vrai, on peut ironiser là-dessus, c'est vrai. Les produits chimiques, c'est très vaste, c'est un résumé très, très pratique de dire les produits chimiques, mais tout le monde comprend ce qu'on veut dire déjà quand on dit les produits chimiques. Ils sont très, très répandus. Je parlais la dernière fois de plusieurs milliers de produits, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, tout ce qu'on veut. Diffuser, c'est le quotidien des gens... À chaque fois que je vais au supermarché, je vois les personnes mettre nonchalamment les flacons de lessive de 3 litres dans leur caddie, le sourire aux lèvres. C'est le quotidien de beaucoup de personnes. Hein. Tous ces produits ont envahi littéralement notre quotidien. Et la plupart des gens ne trouvent qu'il n'y a aucun problème à ça.
Oui, moi j'ai constaté même une évolution surprenante. Par exemple, de plus en plus souvent, quand je parle avec quelqu'un dans la rue ou n'importe où, tout d'un coup, la personne, en me parlant, ouvre son sac à main, sort un tube de crème et se met de la crème sur les mains je ne sais pas pourquoi, mais ça semble être quelque chose de vraiment, c'est l'ordinaire, quoi. On ne peut plus vivre sans ça. Alors qu'en fait, c'est quand même assez étrange, finalement.
Bon, il y a quelque chose qui me repousse, c'est la crème solaire. C'est vraiment sur les plages.
Je peux plus aller.
Je peux plus aller sur les plages, sur le littoral méditerranéen en été, c'est impossible. Enfin, ouais. Sur les plages où il y a beaucoup de monde, il y a un tartinage généralisé de crème solaire.
Ouais.
On
se demande comment détailler. Les bébés supportent ça.
L'argument, c'est que ça protège du soleil. Bon, pour parler une autre fois. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi hein, par rapport au soleil, mais l'argument c'est que ça protège du mauvais soleil, du méchant soleil.
Et puis sachant que ces crèmes solaires sont aussi de plus en plus toxiques et de moins en moins contrôlées, notamment avec l'adjonction, mais qui à la fin du printemps dernier, c'est le journal Sans Abri qui mettait en garde contre les nanoparticules dans les crèmes solaires. Donc tout le monde est au courant.
Je ne suis pas forcément d'accord pour dire que tout le monde est au courant. Bon, moi, j'ai commencé un livre qui s'appelle « Nanotoxique » de Roger Langlais. Je pense que la plupart des gens ne connaissent pas bien, en fait, les dangers potentiels des nanotechnologies, des nanomatériaux, des nanoparticules. Bon, c'est très bien que tu me dises qu'il y en ait fait mention dans un journal, mais moi, je pense que les nanoparticules vont être un gros, gros problème de santé publique au XXIe siècle. Et que pour l'instant, les gens ne le savent pas, enfin, ne savent pas ce que c'est, quoi. Ils savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, les nanoparticules, quoi.
On observe de la chimico-sensibilité spécifiquement avec des nanoparticules où on n'a pas encore de recul. Il faut savoir aussi que la composition des produits, les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer qu'il y a des nanoparticules dans leurs produits. Donc en fait, on ne peut même pas savoir en lisant l'étiquette ou même en contactant le fabricant puisqu'il ne nous répondra pas sur...
Les industriels ont targué du fait que c'était compliqué pour eux de faire cet étiquetage. J'espère que grâce au livre de Roger Langlais, il y aura une prise de conscience politique, sociale, citoyenne pour imposer cet étiquetage. De toute façon, apparemment, même les assureurs commencent à pressentir le gouffre. Il faut comprendre que comme pour beaucoup de choses, les nanotechnologies se sont développées très très vite du fait des profits mirobolants qui ont été engendrés par cette technologie. Ça se chiffre c'est à peu près 1 500 milliards de dollars par an pour les États-Unis, peut-être la moitié pour la Corée et le Japon, peut-être 500, entre 200 et 500 millions d'euros pour l'Allemagne et la France. Voilà, je cite ces chiffres, c'est pour dire que toutes ces nanoparticules ont des propriétés qui paraissent miraculeuses. Par exemple, les, les produits cosmétiques vont s'introduire plus profondément dans la peau, dans les cellules. Donc c'est présenté comme un avantage. On va dire que le bon produit cosmétique va aller jusque dans la cellule. Alors que normalement, un produit, une crème, ça passe par la peau, mais ça ne s'introduit pas dans les cellules. Hein, parce que nos cellules sont bien faites. Elles ont une membrane qui les entoure et qui les protège, tout simplement, de toutes les particules qui circulent dans le sang, dans notre corps. Et en aucun cas, il faut que des particules viennent à l'intérieur des cellules, parce que dans ce cas, ça atteint notre ADN. Hein. Les filaments d'ADN, les chromosomes sont situés à l'intérieur des cellules. Alors, ces nanoparticules peuvent se permettre de passer allègrement à travers les membranes de nos cellules et venir endommager notre ADN. Et donc comme autre produit, on peut citer ces produits qui rendent les chaussures imperméables, les peintures qui, une fois appliquées, ne captent pas la poussière, toutes sortes de... Voilà, mais même dans l'alimentation, j'ai entendu dire que dans les... je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms de marques, mais dans certains bonbons bien colorés pour les enfants, il y a des nanoparticules.
Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, la population se croit protégée par des scientifiques qui savent lever les boucliers, qui savent. Les gens ont une confiance inouïe dans tout ce qui est institutionnel, gouvernemental, scientifique, etc. Mais là, je voudrais vraiment dire que, en fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est même le contraire. Actuellement, toutes les industries chimiques, nanotechnologiques, OGM, vaccins, médicaments, etc., tout ça s'est propulsé avec une légèreté, une liberté dans la nature, dans nos organismes, partout. Sans pratiquement de protection, sans aucune limite, sans en toute impunité, en toute vraiment on se rend pas compte. Les OGM, on a lancé ça 5 ans, on a lancé ça dans la nature 5 ans après avoir à peine commencé les études, et on n'a fait aucune étude sur les effets sur le corps humain à long terme, puisque forcément on n'avait pas le temps, on n'a pas fait des études sur 20 ans par exemple. Et c'est vrai pour les vaccins. On ne sait pas que, en fait, les vaccins, ils ont été balancés dans la santé publique sans faire des études poussées sur les effets à long terme, etc. L'aluminium, il faut savoir que l'aluminium n'a aucune, mais vraiment, vraiment aucune norme, aucune limite. Donc n'importe quel industriel alimentaire peut mettre de l'aluminium dans la nourriture. On en met même dans la nourriture pour les bébés, sans aucune limite. On met de l'aluminium, on nous fait manger de l'aluminium. Et on en met partout, il y en a dans l'eau, il y en a dans l'eau du robinet, il y en a dans l'alimentation, il y en a dans les vaccins, il y en a dans les médicaments, il y en a partout. Et l'aluminium, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il vient détruire la paroi hémato-encéphalique, c'est-à-dire la paroi qui protège le cerveau du sang. Normalement, le sang ne doit pas aller dans le cerveau.
Ça protège le système nerveux de toutes les impuretés, de toutes les particules toxiques qui pourraient circuler dans le sang.
Voilà, et c'est, en fait, c'est ça qui est... c'est ce qui nous arrive à nous, les chimico-sensibles, c'est que nous avons cette paroi qui est détruite. Et par quoi elle a été détruite ? À l'origine, par l'aluminium qui était dans les vaccins qu'on a pris quand on était enfant. Voilà, donc au début de l'émission, moi j'ai pas dit comme Delphin, j'ai pas dit qu'il y a eu un jour un accident, où lui c'était quand il a travaillé dans les vignes, je crois.
Ouais, c'était en agriculture raisonnée, en culture de salade.
Voilà, mais moi c'était, en fait, mon accident à moi, il a eu lieu lors de mes 6 ans, quand j'ai été vaccinée du BCG. Alors à propos du BCG, je voudrais simplement vous alerter sur, interpeller sur le comportement du gouvernement par rapport au BCG. Jusqu'à il y a quelques années, il était obligatoire. Et on peut dire que, je l'ai lu dans des bouquins, on peut dire que la population mondiale a été couverte par le BCG à hauteur de 98%. Donc, pratiquement toute l'humanité énorme. a été BCGisée, si je puis dire. Et pourtant, la tuberculose est en augmentation. Elle est en recrudescence. Dans les hôpitaux, on voit de plus en plus de tuberculeux. Et en même temps, il y a quelques années, je crois que c'était en 2008 ou 2009, on a levé l'obligation vaccinale au BCG. Alors là, je veux bien qu'on m'explique ce comportement. Et dans tous les cas, j'ai juste envie de dire, mais n'importe, un enfant peut le comprendre, n'importe qui peut dire qu'il y a forcément une erreur, il y a forcément une faute politique, soit avant, soit après. Parce que si le vaccin contre la tuberculose, si le BCG est efficace, alors il y a une faute maintenant, parce qu'on l'arrête. Pourquoi est-ce qu'on l'arrête s'il est efficace, alors que la tuberculose est en recrudescence? Et si le vaccin est inefficace, c'est avant qu'on était en faute politique, puisqu'on a fait prendre des risques aux gens, puisqu'on sait que les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. On a fait prendre des risques aux gens pour leur mettre dans le corps des produits qui leur servaient à rien. Vous voyez, donc il y a forcément une faute, soit avant, soit après. Mais ces gens agissent en toute impunité. Personne ne les interpelle jamais. Personne ne leur demande jamais des comptes.
Alors, on va prendre le temps de parler un peu des vaccins. Juste avant, j'avais une question. Est-ce que tu sais à quoi sert l'aluminium dans l'alimentation? Pourquoi est-ce que des industriels sont amenés à mettre de l'aluminium dans notre alimentation?
J'avais vu un film là-dessus, mais je m'en rappelle plus, en fait. Non, je sais plus pourquoi ils mettent ça. Si, j'ai un élément de réponse qui me revient. Par exemple, on en met dans le pain de mie pour le blanchir. Parce que les gens n'aiment pas le pain gris. Voilà, c'est plus joli quand c'est blanc.
Mais il est plus éclatant, sans doute. Oui.
Voilà, il magnifique. Fait plus envie. Voilà, donc c'est mieux.
Ok, donc comme colorant, quoi, là, oui. Dans cet exemple.
Oui, dans les vaccins, il a un autre effet. Je crois que c'est un...
C'est un effet irritant.
Je sais plus.
Je sais qu'il sert à irriter l'organisme pour accentuer la réaction de l'organisme aux molécules que porte le vaccin. Donc il a clairement une action toxique, momentanée. Tiranni statuunti, ecclesia calcata, mammon regnati, pontifices, errant, turbanti, turbanti, sorden, violanti, lami, sordesci, refugi, raresci, tibesci, enervant, turget, exercenti, urge di circo, pesti, detrimentum, grave, mesti, aurum, censores, pravi, justi, migliores, omnipotens audi, hostis fugiat, amenis foveatu. Vous écoutez Radio Diwa, l'interview du jour. Aujourd'hui consacré à la chimico-sensibilité. Toutes les références seront rappelées sur la page internet de l'émission sur rdwa.fr. Delphin et Sylvie, on parle des vaccins. Alors,
oui, je pense que c'est un sujet important. J'ai pas non plus envie de dramatiser, c'est-à-dire que j'ai pas envie de faire peur aux gens. Je pense qu'il faut s'informer sur le sujet. Voilà. Il y a énormément de gens de bonne volonté, hein, des gens de bonne foi, des mères de famille qui veulent le mieux pour leurs enfants, qui vaccinent leurs enfants avec les vaccins obligatoires, parce que ces mères sont convaincues que la France, l'État français, a déterminé au fil des années ce qui était le mieux pour la santé publique, pour la santé des enfants. Et voilà, et les conclusions de toutes ces recherches seraient que ben, il faut vacciner pour éviter certaines maladies graves, pour éviter qu'il y ait des épidémies qui reviennent, des épidémies de maladies graves. Hein, on pense au tétanos, à la poliomyélite, à la diphtérie, à la coqueluche, à la tuberculose. Voilà, moi je me renseigne sur le sujet, je vois des livres qui circulent. Là j'en ai un entre les mains par exemple, écrit par Maître Jean-Pierre Joseph, qui est avocat à Grenoble. Il y en a un autre que j'ai lu qui s'appelle « Vaccination, je ne serai plus complice », écrit par un médecin, le docteur Jean Méric. Il y a toute une bibliographie dans ce livre de Maître Jean-Pierre Joseph. Donc je pourrais citer encore de nombreux livres écrits par des médecins, écrits par des journalistes, scientifiques. Voilà, donc comme je disais, j'ai pas envie d'alarmer les gens. Par contre, j'aimerais lire calmement quelques citations, en sachant que je prétends absolument pas détenir la vérité sur le sujet. Je suis pas scientifique, je suis pas médecin. Je suis un citoyen lambda. Par contre, voilà, qu'est-ce
père
que dit père de famille? Qu'est-ce que dit donc j'ouvre ce livre par exemple et donc faut savoir que quand même il y a un argument majeur en faveur des vaccins qui circule, qui est répandu dans la population, c'est que les vaccins ont enrayé des épidémies, les épidémies de maladies graves. Hein, je recite la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, la variole, toutes ces maladies graves. Donc là, par exemple, par rapport à ça, j'ai appris que aux Philippines, en 1905, suite à une campagne de vaccination massive, une épidémie fit mourir 25% de la population. Ensuite, entre 1918 et 1920, alors que l'armée américaine venait d'obliger 95% de la population à se faire vacciner, une terrible épidémie emporta cette fois 54% de la population. Donc je peux dire que j'ai quand même halluciné, je peux dire ce mot-là, j'ai halluciné, parce que plus de la moitié des Philippins sont morts entre 1918 et 1920, très vraisemblablement du fait que l'armée américaine venait de vacciner 95% de la population. Donc il y a ensuite une comparaison entre ce qui s'est passé à Manille, donc la grande ville des Philippines où la plupart des gens se sont fait vacciner. 65,3% des personnes sont décédées, alors que sur une petite île, l'île de Mindanao, curieusement, seulement 11,4% des personnes sont décédées. Curieusement, les indigènes avaient en fait refusé de se faire vacciner. Donc il y a clairement un lien entre ces vaccinations et ces décès. Il y a eu en 1993 en France, cette fois, dans les hôpitaux de Paris, il y a eu un curieux fait, c'est que 100 infirmières, une centaine d'infirmières des hôpitaux de l'assistance publique de Paris ont été contaminées contre la tuberculose. Et pourtant, elles étaient vaccinées, bien sûr. En tant qu'infirmières, elles étaient forcément vaccinées. Elles ont pourtant contracté la tuberculose. Encore une citation de cette fois du Monde, du journal Le Monde du 2 février 1987. Suite à une importante épidémie de poliomyélite en Afrique de l'Ouest, alors près de 200 des enfants que l'on croyait correctement vaccinés ont contracté la maladie et certains sont morts. Une autre dépêche de l'AFP, cette fois en 1997, la quasi-totalité des cas de poliomyélite recensés aux États-Unis de 1981 à 1994 ont été causés par l'administration du vaccin oral atténué. Encore une fois dans The Lancet, 54% des personnes atteintes par une toute récente poussée de poliomyélite en Namibie étaient toutes vaccinées dans les règles contre la poliomyélite. Voilà. On peut multiplier à l'infini ces cas de personnes qui contractent les maladies alors qu'elles sont vaccinées contre ces maladies. Donc finalement, c'est bien la preuve.
Oui, moi j'ai un exemple local.
Que les vaccinations ne protègent en rien contre les maladies.
Moi j'ai un exemple local. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2009, il y a eu une épidémie de rougeole à Die. Enfin, c'était aussi en France, hein, il y en a eu beaucoup. Mais donc ma fille était au collège à l'époque et elle l'a attrapé. Et elle m'a dit, elle a fait ses propres statistiques, elle m'a dit que parmi ses copines qui avaient attrapé la rougeole, il y en avait la moitié qui était vaccinée, l'autre moitié qui ne l'était pas. Enfin, c'était... Et inversement, parmi ses copines qui n'avaient pas attrapé la rougeole, il y en avait la moitié qui était vaccinée et d'autres qui ne l'étaient pas. Mmh. Il ne ressortait pas, en tout cas de façon flagrante, le fait que celles qui n'étaient pas malades étaient celles qui avaient été vaccinées et celles qui étaient malades étaient celles qui n'avaient pas été vaccinées. C'était pas du tout flagrant. Voilà, j'ai envie de dire aux gens qu'ils peuvent faire leurs propres statistiques.
Oui, à propos de la rougeole, c'est vrai que rougeole, rayon, rubéole, c'est un vaccin qui est en général recommandé, fortement recommandé, parce que voilà, on dit que c'est des maladies bénignes et que c'est quand même dommage si les enfants décèdent suite à cette maladie bénigne. Encore une fois, vraiment, regardez les statistiques, le nombre de décès, etc. Moi, je reprends une citation, je lis encore une citation, cette fois de l'événement du jeudi.
Toujours dans le livre.
Toujours, voilà. Alors, ce livre est très bien fait parce que finalement, il y a toute une série de questions. Chaque chapitre correspond à une question. Et au lieu de répondre directement, Maître Jean-Pierre Joseph fait. Toute une liste de citations, de scientifiques, d'articles de journaux, etc. Voilà. Comme ça, on a toute une diversité de points de vue, de sources, qui montrent bien que ce n'est pas juste son opinion personnelle, hein, finalement. Donc, qu'est-ce que disait l'événement du jeudi en mars 92 ? Les Américains, malgré une politique musclée de prévention contre la rougeole, voient l'une des plus agressives maladies infantiles augmenter régulièrement chez les nourrissons. Nés de mères vaccinées, les bébés hériteraient d'anticorps moins résistants que ceux provoqués par une rougeole naturelle. Donc c'est ce qui revient souvent quand j'en parle avec des amis, c'est que notre système immunitaire est vraiment fort, est vraiment performant, perfectionné depuis des millions d'années d'évolution. Notre corps a su créer un système de défense naturelle en fait, contre tous les parasites, tout ce qui pourrait
bien sûr.
Porter atteinte à son intégrité, quoi. Donc nous, depuis Pasteur, avec ces politiques de vaccination massive, on affaiblit l'organisme parce que voilà, on administre des vaccins qui contiennent des virus vivants la plupart du temps. Et finalement, ça crée des anticorps. Enfin, ça, c'est ce que dit la médecine. Mais en tout cas, les nourrissons sont beaucoup moins résistants à la rougeole du fait que leur mère elle-même était vaccinée. Et voilà, finalement, de génération en génération, le système immunitaire ne se renforce pas, il s'affaiblit. Et il y a aussi d'autres études scientifiques qui disent que suite aux vaccinations, le système immunitaire est affaibli.
Oui.
Alors que l'objectif, c'est le contraire.
À propos d'anticorps, puisque tu viens de prononcer le mot, j'ai envie de donner aussi une autre anecdote, enfin qui n'en est pas une pour moi, mais c'est une information qui est vraiment forte. C'est que le tétanos ne fait pas d'anticorps, tout simplement. Ça n'existe pas dans la nature, l'anticorps contre le tétanos. Donc, ni naturellement, ni produit naturellement, ni produit artificiellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on attrape une fois le tétanos et qu'on y survit, on ne fait pas d'anticorps, donc on peut la rattraper une autre fois. On peut avoir 10 fois le tétanos dans sa vie. Et parce que l'anticorps contre le tétanos, je le répète, n'existe pas. Entendez-le bien, c'est une vérité, c'est un scientifique qui me l'a dit. Et donc, là, vraiment, il y a vraiment un problème politique, quoi, parce que moi, je pose la question, pourquoi est-ce qu'on nous fait croire qu'on nous vaccine contre le tétanos, alors qu'en fait, c'est absolument impossible, puisque l'anticorps du tétanos n'existe pas dans la nature. On ne peut pas. Et en plus de ça, les statistiques le confirment, parce que c'est dans les pays où on vaccine le plus contre le tétanos qu'il y a le plus de cas de tétanos. Voilà, je peux en donner, tout ça c'est dans mon livre, et je peux en donner plein d'autres, des choses comme ça. Et je voulais dire aussi tout à l'heure, tu parlais de ce qui a éradiqué les maladies. Tu disais que les gens croient, les mères de famille croient que les maladies graves ont été éradiquées par les vaccins. Or ça aussi c'est tout simplement faux. tout simplement.
Voilà. Oui, par exemple, parce la poliomyélite.
Je peux finir. En fait, en réalité, les campagnes de vaccination ont été lancées alors que toutes ces grandes maladies étaient en voie de disparition. Voilà, vas-y, tu peux continuer.
Oui, je crois que c'est bien de la poliomyélite dont il s'agit. Je n'ai pas mes notes sous les yeux, mais voilà, on a fait croire qu'il y avait une concordance en fait, entre la disparition de cette maladie dans certains pays d'Europe, pas tous, et les vaccinations. Mais en fait, très clairement, ce que montrent les statistiques, c'est que ça correspond à une meilleure hygiène de vie, au fait que les gens se lavent les mains après être allés aux toilettes, au fait qu'on ne déverse plus les eaux usées des hôpitaux dans la nature, hein, alors que ça se faisait encore dans les années 1950. Et en fait, dans...
Oui, l'installation de l'eau courante.
Oui. Et dans tous les pays d'Afrique, d'Asie, où les normes d'hygiène sont respectées, cette maladie recule. Et là où les normes d'hygiène, les précautions d'hygiène les plus simples, se laver les mains, etc., boire une eau pure et ne pas déverser les eaux usées dans la nature, dans tous les pays où ces règles sont respectées, où ces règles ne sont pas respectées, cette maladie continue de sévir. Voilà, Sylvie parle des anticorps. Je pense que tout le fonctionnement... bon, je me trompe peut-être, mais d'après ce que je lis, d'après tout ce que j'ai lu, je pense que toute la représentation qu'a la médecine... du fonctionnement des vaccins, avec les anticorps, etc., c'est peut-être faux. Tout ce que Pasteur a censé démontrer, c'est peut-être faux. Donc je cite tout simplement une citation d'un médecin, le docteur Jacqueline Bousquet. « Si les dogmes n'étaient pas aussi forts, on pourrait suggérer timidement que les divers virus sont peut-être des effets et non des causes, ou du moins qu'ils agissent en réponse à une ou plusieurs causes situées en amont. » Dénutrition et absence d'eau potable principalement, mais aussi endémie ancienne et campagne de vaccination massive dans le tiers-monde. Mais on n'a pas le droit, sous peine d'être qualifié d'hérétique. Beaucoup ont essayé depuis Pasteur d'orienter la médecine sur d'autres voies, en vain. Il y a clairement un dogme, il y a une institution médicale et il est impossible pour tous ces médecins sérieux qui font des recherches sérieuse, qui se penche sérieusement sur le sujet, il est impossible pour eux d'émettre le moindre doute sur les vaccinations, sur le dogme vaccinal. C'est terrible.
Mais puisque ça reviendrait à remettre en cause,
ça remettrait en cause
la théorie microbienne.
Toute la médecine préventive serait remise en cause. Ce serait un coup dur presque insurmontable pour la médecine et pour les industries pharmaceutiques.
C'est-à-dire le dogme selon lequel... un microbe est à l'origine d'une infection à l'exclusion de tout autre facteur et qui empêche de regarder les choses.
Alors que finalement,
dans leur complexité,
comme le dit cette femme, le docteur Jacqueline Bousquet, finalement, les virus seraient peut-être que des conséquences, des effets, non pas les causes des maladies.
Mais que ce qui est important, c'est le terrain. Mais alors, ces vaccins abîment le terrain. Aussi au niveau de la chimico-sensibilité. Alors, c'était pour revenir à cette thématique.
Mais disons que, juste pour finir, je voulais ajouter que, en fait, la médecine s'est fait une belle place, disons, et elle a gagné la confiance des gens à partir du moment où elle a utilisé les antibiotiques et elle a fait reculer considérablement les maladies infectieuses. Ça, c'est vrai. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en même temps, elle a développé les maladies dégénératives avec les antibiotiques et vaccins et autres. Et donc maintenant, on est toutes fières de dire bravo, on n'a plus de maladies infectieuses, on sait les soigner, mais en fait, on se retrouve dans une situation dramatique. On est complètement... les maladies dégénératives courent les rues et on ne sait pas gérer parce que ça, la médecine ne sait pas gérer. Voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, la chimico-sensibilité fait partie de ces maladies dégénératives que je considère personnellement comme étant le résultat de vaccination. En tout cas pour moi, et je ne pense pas être la seule. Voilà.
Plus précisément de vaccination, de l'exposition à l'aluminium qui
oui,
se trouve dans les vaccins.
Ça commence par ça. Oui. C'est-à-dire que l'aluminium ouvre la porte du cerveau En détruisant la barrière hémato-encéphalique, elle ouvre la porte du cerveau à tous les autres produits chimiques. Donc c'est pour ça qu'on est malade dès qu'on respire une toute petite quantité de produits chimiques, parce que ça va tout de suite dans notre cerveau, et c'est pour ça aussi que ça perturbe notre comportement, que ça peut nous rendre agressifs ou dépressifs ou autres. Ça va aussi, ça laisse entrer le mercure qui lui-même se loge, après il va dans l'intestin et il faut savoir que c'est le rectum qui assimile le calcium, c'est par le rectum que nous assimilons le calcium. Et comme le mercure qui est aussi dans les vaccins, hein, tant qu'à faire, mettons-en aussi, se loge dans le rectum, eh bien, nous n'assimilons plus le calcium. Et donc, cette perte d'assimilation du calcium, j'en ai parlé au début de l'émission, de la première émission, ça asphyxie nos organes blancs, puisque c'est le calcium qui alimente normalement nos organes blancs. Et ça perturbe aussi notre système enzymatique. Donc, ça acidifie l'intestin et ça produit des parasites. Ensuite, on fait des allergies aux parasites, parce qu'il y en a trop. Donc, parasites, entre autres, les candida albicans. Et c'est ça qui nous amène aux intolérances au lait, au gluten et aux allergies. Et qui fait beaucoup, beaucoup de maladies dégénératives. Voilà, j'ai fait à peu près... Là, j'ai vraiment tracé en gros, mais j'ai dit des choses très importantes. Ouais, tout est dans la non-assimilation du calcium. Et ça vient des vaccins.
Il est temps de conclure.
Pour l'instant...
mais voilà, quand tu dis parler, qu'on voulait quand même en parler sur cette invitation, qu'on voulait quand même finir sur cette invitation, en parler entre vous, bien sûr, ensuite double effet de la radio, vous en parler entre vous, et ensuite vos amis, vous en parler entre vous, voilà, vos amis, pour en parler, mais aussi faites-nous des retours,
Oui, avec Delphin, on avait un projet d'essayer de rassembler des gens pour qu'on soit plus nombreux que deux dans notre groupe. Si vous avez l'impression que vous ressemblez à ce que nous vivons, et si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de soutien, ne serait-ce qu'en parlant avec nous, ben on vous invite à vous manifester, à écrire soit sur mon site, vous trouverez mon adresse mail, ou soit sur ma boîte postale, à Die.
Alors on va tout donner à l'antenne, voilà, pour qui n'a pas internet.
Ceux qui n'ont pas internet peuvent m'écrire sur ma boîte postale 31 à Die, voilà, 2650 Die, Sylvie Renault, comme les voitures.
Voilà, Sylvie Renault, boîte postale 31, 26150 Die, voilà. En France.
D-I-E, pour ceux qui ne connaissent pas.
Et disons qu'on voulait faire local. On voulait essayer de rassembler les gens qui sont chimico localement pour qu'on se voit peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. Je ne sais pas, c'est à voir.
Et donc, on peut aussi donner à l'antenne ton site internet, l'adresse électronique de ton site internet.
Ben oui, c'est www.unlivreouvert.fr.
Tout attaché,
voilà. Okay. Un livre ouvert. J'ai choisi ce nom parce que c'est le titre d'un de mes chapitres.
Et tu aurais une adresse électronique aussi que tu pourrais donner aux auditeurs ?
Elle est sur mon site, de toute façon, et puis elle sera dans les liens...
Dans les contacts.
Souvent,
c'est comme ça.
De cette émission. Oui. Alors, voilà. Et puis, transmettez-la, envoyez le lien à vos amis... Faites écouter cette émission.
Téléchargez-la.
Et c'est gratuit.
Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur la page de l'émission.
Oui, aussi.
Bien sûr.
Transmettez le lien par courriel à vos amis.
On avait encore prévu plusieurs points à traiter au cours de cette interview. Donc, je donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices pour une prochaine interview du jour qui est déjà réalisée à l'heure où vous nous écoutez. Rassurez-vous, la suite existe déjà et nous...
Nous allons la diffuser très bientôt, je pense, sur les ondes de Radio Diwa.
Merci. À tout bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Interview.
L'interview du jour. À l'écoute de RDIWA sur le 107.5 FM.